VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 24 mars 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et John Linden.
Pour commencer les titres.
Nouveau sommet de la CEDEAO sur le Mali ce vendredi au Ghana. Le colonel Assimi Goïta a été invité.
Au Burkina Faso, alourdissement du bilan de l'explosion dimanche d'un engin explosif improvisé dans l'est du pays.
Washington accuse Moscou de crimes de guerre en Ukraine.
Et le président Joe Biden participe aujourd'hui à Bruxelles à des sommets de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne sur le conflit dans ce pays.
Madeleine Albright, première femme à occuper le poste de secrétaire d'État américaine, est morte hier à l'âge de 84 ans.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La CEDEAO organise demain au Ghana un sommet extraordinaire sur la situation au Mali, un sommet auquel a été invité le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Le point avec Abdourahman Dia.
Ce sommet se tient moins d'une semaine après que le médiateur de la CEDEAO est reparti de Bamako sans accord avec le pouvoir sur un calendrier de retour des civils au pouvoir. Aucune information n'a été fournie par les autorités maliennes quant à la participation ou non du colonel Goïta au sommet. L'organisation régionale demande la tenue d'élections dans un délai de 12 à 16 mois. Au cours de la visite du médiateur Goodluck Jonathan, le gouvernement a indiqué que le colonel Goïta avait ramené ce délai de 4 à 2 ans. Mais le médiateur est resté sur une durée de 12 mois, a dit le gouvernement malien. La CEDEAO conditionne la levée progressive des sanctions qu'elle a imposées le 9 janvier à la présentation d'un calendrier dit acceptable pour la tenue d'élections pour ramener les civils au pouvoir au Mali.
Au Burkina Faso, retour sur la mort des 11 soldats tués dimanche lors du passage de leur véhicule sur un engin explosif improvisé dans l'est du pays, près des frontières du Ghana et du Togo. Cette attaque a été annoncée par l'armée mardi soir. Jini Kapungu, Villa.
Dans un communiqué, les forces armées affirment qu'une attaque complexe dans les environs de Napad a eu lieu dimanche au cours de laquelle 11 soldats sont tombés. Un précédent bilan faisait état lundi de 5 soldats tués dans cette explosion. L'armée burkinabé a également été endeuillée dimanche par une autre attaque, toujours dans l'est du pays, qui a fait 13 morts. Les unités ont réussi à neutraliser au moins 36 terroristes, affirme le communiqué. Il y a eu plus de 60 victimes civiles et militaires en moins de 2 semaines dans le nord et l'est du pays. Après avoir renversé en janvier le président Roch-Marc Christian Kabore, accusé de laxisme face à la violence djihadiste, le nouveau chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, se retrouve confronté au même problème. La semaine dernière, l'armée a reconnu une légère dégradation de la situation avec la persistance des attaques contre les populations et la dégradation d'infrastructures électriques et de téléphonie mobile.
En Tunisie, le syndicat national des journalistes a accusé mercredi le pouvoir d'instrumentaliser les appareils de l'État pour faire taire les journalistes. Le SNJT réagissait au placement en détention de Khalifa Ghesmi, un confrère de Mosaïque FM qui a refusé de dévoiler ses sources.
Il avait été arrêté le 18 mars au nom d'une loi antiterroriste après la publication sur le site de cette radio privée de son article sur le démantèlement d'une cellule terroriste et l'arrestation de ses membres. Deux de ses collègues, dont le rédacteur en chef Houssine Dababi, ont été convoqués devant un juge vendredi.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel vibrant aux citoyens du monde entier à manifester contre l'invasion russe de son pays, un mois jour pour jour après son commencement, alors que s'ouvrent aujourd'hui à Bruxelles des sommets de l'OTAN, de l'Union européenne et du G7. Hier, l'Alliance Atlantique a affirmé vouloir renforcer son soutien à l'Ukraine contre les armes chimiques et ses déploiements tactiques en Europe de l'Est. Plus de détails avec Mohamedou Oumfa.
Un mois après le début de l'invasion russe, les Occidentaux se réunissent à Bruxelles pour des sommets de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne. À la clé, de nouvelles sanctions contre la Russie, selon Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain. Joe Biden va aussi travailler avec les alliés sur des ajustements de long terme concernant la présence de l'OTAN en Europe de l'Est, d'après Jack Sullivan. L'Alliance Atlantique va déployer 4 nouveaux groupements en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie pour renforcer ses défenses contre la Russie sur son flanc Est, selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Les alliés ont déjà renforcé leur soutien à l'Ukraine en fournissant des systèmes de défense aérienne, des systèmes anti-chars et différents types d'armes et de munitions. J'attends des alliés qu'ils examinent comment ils peuvent fournir davantage d'équipements de protection et de défense contre les armes chimiques, a déclaré hier M. Stoltenberg. Le sommet de l'OTAN va appeler à des pourparlers avec la Chine et lui demander de s'abstenir de soutenir l'effort de guerre de la Russie, a annoncé M. Stoltenberg.
Le gouvernement américain a établi que les membres des forces russes ont commis des crimes de guerre en Ukraine. C'est ce qu'a affirmé hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Nous avons vu de nombreux rapports crédibles d'attaques aveugles et d'attaques visant délibérément des civils, ainsi que d'autres atrocités, a-t-il déclaré dans un communiqué, en soulignant qu'il reviendra aux tribunaux de déterminer les responsabilités.
Ces crimes de guerre doivent cesser immédiatement, a de son côté déclaré mercredi le président du Conseil européen, Charles Michel. Nous voyons la Russie attaquer de plus en plus la population civile, viser des hôpitaux, des écoles et des réfuges, a-t-il dit dans un communiqué.
Le conflit est également meurtrier pour les forces russes qui ont déjà perdu entre 7 000 et 15 000 soldats en Ukraine, selon un haut responsable de l'OTAN, qui se base notamment sur des informations en provenance des autorités ukrainiennes et des services de renseignement occidentaux.
La Russie a décidé d'expulser des diplomates américains en représailles à l'expulsion début mars par Washington de 12 membres de la mission diplomatique russe auprès de l'ONU accusés d'espionnage.
À Kiev, une nouvelle frappe sur le parking d'un centre commercial a fait un mort et 2 blessés selon le maire Vitali Klitschko. Plus tôt dans la journée, 4 personnes avaient été blessées dans des bombardements sur des immeubles. Kiev reste un objectif de l'armée russe, mais celle-ci est bloquée au nord-ouest et à l'est de la capitale ukrainienne.
L'armée russe, qui a reculé de plus de 30 km à l'est de Kiev depuis 24 heures et a commencé à établir des positions défensives sur plusieurs fronts en Ukraine, a indiqué mercredi un haut responsable du Pentagone. Une journaliste russe, Oksana Bolina, a été tuée hier dans un bombardement sur Kiev, a annoncé dans la soirée le média en ligne pour lequel elle travaillait, The Insider.
Plus de 3,6 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le 24 février, indique le décompte de l'ONU publié ce mercredi. Au total, quelque 10 millions de personnes, soit un quart environ de la population du pays, ont été forcées de quitter leur foyer.
À New York, un procureur qui a quitté avec fracas une enquête il y a un mois a accusé l'ancien président américain Donald Trump d'être coupable de nombreuses infractions, notamment de fraude financière au sein de la Trump Organization. C'est ce qui ressort des extraits de sa lettre de démission publiée mercredi par le New York Times.
Ces extraits confirment que Mark Pomerantz et son collègue Carrie Dunn ont tous deux démissionné le 23 février pour protester contre le choix du nouveau procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, de ne pas inculper M. Trump. M. Bragg a lui assuré poursuivre l'enquête sans les deux démissionnaires.
Toujours ici aux États-Unis, Madeleine Albright, ancienne secrétaire d'État américaine, première femme à occuper ce poste au sein du gouvernement américain, est morte hier à l'âge de 84 ans. Michel Joseph.
Madeleine Albright s'est éteinte des suites d'un cancer, précise ses proches. Elle a d'abord été représentante des États-Unis à l'ONU, où elle a imprimé sa marque lors de l'offensive américaine au Kosovo, avant de devenir chef de la diplomatie américaine. Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a qualifié sa mort de bouleversante, soulignant qu'elle était une pionnière en tant que première femme secrétaire d'État. Madeleine Albright est née le 15 mai 1937 à Prague, dans une famille juive qui s'est réfugiée à Londres pour fuir le nazisme. 11 ans plus tard, sa famille, qui est entre-temps retournée en Tchécoslovaquie, décide, lorsque les communistes prennent le pouvoir, d'émigrer aux États-Unis. Des études brillantes lui permettront d'accéder aux plus hautes marches du pouvoir. Elle a vécu le rêve américain et a aidé les autres à le réaliser, a salué l'ancien président George W. Bush au sujet de cette réfugiée polyglotte qui parle anglais, tchèque, français et russe. Il y a juste un mois, elle a publié un éditorial dans le New York Times accusant le président russe Vladimir Poutine de commettre une erreur historique en se préparant à envahir l'Ukraine.
La Minute Éco, Nathalie Barthes.
Le Maroc devrait connaître une inflation de 4,7% et une croissance de 0,7% cette année, a annoncé la Banque centrale sur fond de flambée des prix. La hausse des prix touche les carburants et les denrées alimentaires. La sécheresse a affecté la production agricole, surtout céréalière. L'agriculture représente 14% du PIB du pays. La flambée des cours des matières premières due à la guerre en Ukraine pèse également sur la croissance du Maroc. L'Afrique du Sud va devoir agir contre la pollution après une décision d'un tribunal dans la région houillère de Mpumalanga. L'air est le plus pollué au monde, selon Greenpeace. Des ONG environnementales ont assigné en justice le gouvernement pour avoir violé le droit constitutionnel des citoyens à respirer un air sain. Le tribunal de Pretoria a donné un an au gouvernement pour mettre en œuvre un plan anti-pollution. L'Afrique du Sud a obtenu 8,4 milliards de dollars de prêts et subventions pour financer une transition énergétique. Une reproduction numérique du mandat d'arrêt contre Nelson Mandela lors de l'apartheid sera vendue aux enchères samedi au Cap, a annoncé une plateforme de vente aux enchères en ligne. Une version numérique du mandat d'arrêt original de 1961 contre Nelson Mandela sera mise en vente 61 ans après son émission, a déclaré Momint. En janvier, la vente aux enchères aux États-Unis de la clé de la cellule de Mandela à Robben Island avait été suspendue, le gouvernement sud-africain ayant réclamé sa restitution.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Coup d'envoi hier des préliminaires des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. 8 sélections sont entrées en lice un mois et demi après le sacre du Sénégal à la CAN. Le Tchad s'est incliné 1-0 devant la Gambie, 0-0 entre les Seychelles et le Lesotho. L'Eswatini a disposé de la Somalie 3-0. Le Soudan du Sud s'est imposé 4-2 devant Djibouti. Suite au retrait de l'Érythrée, le Botswana est qualifié d'office pour la phase de groupe des éliminatoires. Il rejoint ici les 42 autres sélections qualifiées d'office pour la phase éliminatoire. En poule, les 24 nations qui se qualifieront pour la phase finale se disputeront la succession du Sénégal en Côte d'Ivoire du 23 juillet au 23 juillet 2023. La Fédération française de football va reverser à l'UNICEF une partie des recettes de billetterie récoltées à l'occasion des matchs amicaux du mois de mars des Bleus. Elle précise que c'est pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre en Ukraine. La Fédération a prévu de reverser 1 euro pour chaque billet vendu à l'occasion des rencontres amicales contre la Côte d'Ivoire ce vendredi à Marseille et contre l'Afrique du Sud mardi prochain à Lille en faveur des victimes du conflit en Ukraine. Le stade Vélodrome, avec ses plus de 65 000 places, devrait être comble vendredi. Le stade Pierre Moroy à Lille affiche déjà complet avec 50 000 spectateurs attendus. Les maillots portés par les Bleus contre l'Afrique du Sud seront mis aux enchères et la recette sera également reversée à l'UNICEF dans le cadre de son action humanitaire en Ukraine, selon la Fédération française de football. Ici aux États-Unis, les gouverneurs républicains de l'Indiana et de Utah ont posé leur veto à des lois visant à interdire aux filles transgenres de participer aux compétitions sportives féminines dans les écoles de leurs États. Les auteurs de la loi estiment que cela pose un problème d'équité sportive. Après un examen attentif, je n'ai pas trouvé de preuves étayant ces présomptions, explique Eric Holcomb, qui dirige l'État de l'Indiana dans le Midwest. Politiquement, il serait plus simple pour moi de signer la loi, mais j'ai toujours essayé de faire ce qui est juste, a écrit Spencer Cox, gouverneur de Utah, dans l'Ouest, notant que seuls 4 enfants transgenres, dont une fille, sont inscrits dans des clubs sportifs scolaires dans le Utah cette année. Ces arguments n'ont pas touché les parlementaires locaux qui ont l'intention de voter ce vendredi pour surmonter son veto.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, l'armée a lancé une grande offensive qui lui a permis de démanteler les principales bases rebelles de la faction armée du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, dirigée par Salif Sadio. Une action de riposte quelques semaines après que les rebelles ont tué 4 soldats et pris en otage 7 autres. Notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué, a recueilli ses réactions de quelques Sénégalais.
Je ne vois pas l'intérêt de cette opération de l'armée, car pour moi, tout doit se faire pacifiquement. La Casamance fait partie du Sénégal. Nous avons tous des parents là-bas. Certains des militaires qui attaquent ont des parents là-bas, donc c'est nous dans nous. Pour moi, aller au dialogue est mieux, car cette attaque peut avoir des conséquences désastreuses pour les populations, car il peut y avoir des pertes du côté des civils innocents. Je pense que les autorités auraient pu opter pour une autre stratégie pour éviter d'envenimer le conflit.
Il faut d'abord savoir que le Sénégal est un pays souverain qui doit préserver la paix. On peut bel et bien régler le problème de la Casamance, parce qu'il n'y a plus de rebelles. Hein. Moi qui habite la Casamance, je peux vous dire que c'est Salif Sadio. Il n'y a que des bandits, ce n'est pas des rebelles. On peut bel et bien éradiquer sans pour autant négocier avec, je peux dire, ces terroristes de rebelles, soi-disant rebelles, qui veulent prôner une libération de la Casamance, qui n'est pas possible. Et je ne suis pas d'avis que voilà, ce banditisme persiste. Ils ont bel et bien raison d'aller pilonner.
Le problème de la Casamance, on va le régler une bonne fois pour toutes.
Parce que... Il faut régler le problème de la Casamance une bonne fois pour toutes, parce que ça commence à atteindre des proportions inquiétantes pour la souveraineté du pays. Il ne peut pas y avoir de sécession au Sénégal. On ne cautionne pas un massacre ni des exactions, mais il faut reconnaître que l'armée a eu raison d'aller au front, car les rebelles ont atteint un niveau et une puissance de feu qui peut les pousser à sortir même de la Casamance et déstabiliser tout le pays.
Le conflit dure depuis pas mal longtemps, hein, depuis 1981 à nos jours. Donc il faudrait à un moment donné soit attaquer. Pour moi, on a trop négocié. À un moment donné, il faut ratisser d'abord. Après avoir obtenu gain de cause, là, il faudrait négocier. Parce que, bon, comme on l'a entendu dans les médias, il y a beaucoup de villageois qui sont partis vers la Gambie pour, voilà, pour fuir les combats et autres. Mais à mon avis, puisqu'ils ont ratissé presque largement la forêt, donc autant négocier, puisque l'essentiel a été fait, et voilà.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
Au Cameroun, le gouvernement et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, qui cherche à réduire la pauvreté à la base, ont lancé une initiative baptisée « Sous-programme de réduction de la pauvreté à la base ». Plus de 20 000 personnes ont déjà vu leurs conditions de vie s'améliorer en milieu rural. Nous dit notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Tap.
Au Cameroun, 9 pauvres sur 10 résident en milieu rural, d'après la 4e enquête auprès des ménages, qui a révélé en août que le taux de pauvreté en milieu rural s'est accru, passant de 55,7% en 2007 à 56,8% en 2014. Pour faire baisser cette tendance, le gouvernement a décidé, depuis 2013, de faire des interventions directes au profit des personnes vivant en milieu rural. Marie-Paul Nanga, une bénéficiaire, est responsable d'un groupe d'initiatives communes au village Bama 3, dans la région de l'Est.
Je vends le pistache, je vends le planteur, l'enfant part à l'école sans difficulté.
Adamou Ratioso, un autre bénéficiaire, est basé dans l'arrondissement de Niabaka, dans la région de l'Adamawa.
Ça nous a permis de transformer notre manioc en farine. Avant, on allait très loin pour aller se servir. Et maintenant, on se sert nous-mêmes. C'est les gens qui viennent pour qu'on les serve.
Le sous-programme de réduction de la pauvreté à la base vise la création d'emplois au niveau communal, le renforcement des filières porteuses de croissance. Grâce à ces financements, Mina Saint-Fort est promoteur d'un secrétariat bureautique dans la commune de Ngoura, à 434 km de Yaoundé, dans une partie du Cameroun où l'accès à l'outil informatique est encore difficile.
La mise en place de ce secrétariat bureautique a permis aux autorités qui se trouvent résidentes à Ngoura même de ne plus se déplacer pour aller faire les différentes activités, par exemple dans une localité très rapprochée de celle de Ngoura.
L'accès au financement de 30% des hommes et 40% des femmes en milieu rural a été possible entre 2013 et 2022. Alain Martin Ochomoti Mbita, directeur national du sous-programme de réduction de la pauvreté à la base au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire.
Le MINEPAT a ouvert des lignes de crédit de plus d'un milliard 12 millions de francs CFA auprès des établissements de microfinance. Il s'agit des crédits à taux bonifié. L'État supporte les intérêts. Les bénéficiaires ne remboursent que le principal.
À travers des centres d'écoute et d'orientation dans les communes, les projets sur l'élevage, l'agriculture, l'aquaculture ou l'artisanat sont sélectionnés. Cette initiative vise à terme la création de 3200 emplois pour les jeunes, 3300 emplois pour les femmes de plus de 15 ans. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, des conflits entre agriculteurs et éleveurs sont fréquemment signalés dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu. Le manque de pâturage et le bétail qui détruit les champs conduisent souvent à de violentes altercations, nous dit notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
Il est 9h du matin à Rutshuru. Bawere Bouzigué, un agriculteur de la chefferie de Bouicha, est venu déposer une plainte. 50 mètres carrés de son champ, des soja ont été dévastés par des vaches.
Mon problème est lié à la dévastation de l'ensemble de mon champ par des vaches errantes. Ici, dans notre région, les éleveurs qui n'ont pas d'endroit pour faire paître leurs animaux les laissent errer dans les champs des autres. J'ai perdu un champ de soja juste à côté du bureau de la ville.
Lorsque de tels désagréments surviennent, les éleveurs et les agriculteurs cherchent des solutions à l'amiable, mais cela ne se termine pas toujours comme souhaité, déclare Désiré Bivégué, un éleveur.
Le bétail dévaste souvent les champs et nous nous asseyons avec les agriculteurs pour signer des compromis. Malheureusement, en tant qu'éleveurs, nous avons du mal à respecter les clauses, ce qui entraîne des conflits et parfois même des guerres.
Pour tenter de mettre fin à ce genre de problèmes, l'association des fermiers concessionnaires pour le développement a mis en place des espaces alloués aux éleveurs qui ont besoin de pâturage. Simon Bossiro est le coordonnateur national de la dite association.
Nous sommes des fermiers concessionnaires, nous avons de l'espace. Nous voulons qu'une fois déjà identifié ces éleveurs ou ces vaches en divagation qui n'ont pas de terre, et nous puissions avoir entre les deux parties une solution définitive. Soit nous les amenons à la location des terres pour les bêtes, ou soit nous les amenons à un élevage intensif.
Mais pour l'association commune des éleveurs et agriculteurs du Nord Kivu, l'État devrait rendre à la population tous les pâturages communautaires déjà occupés par des particuliers, ce qui résoudra définitivement les conflits. Vincent Zilimois Gabo est membre du conseil d'administration de la COGENOKI.
Il faut rétablir le système de pâturage communautaire parce que chacun aura la place pour garder soit une vache ou deux, ou si vous en avez beaucoup, mais c'est communautaire. Donc, quel État octroie ou qu'il établisse le pâturage communautaire d'antan. Il y a le kibaya de Nyiragongo qui a été vendu au privé. Il y a le kibaya dans le territoire de Rutshuru qui a été aussi cédé au privé. C'est une entorse. Donc il faut rétablir ce pâturage communautaire à la population.
L'écrasante majorité de la population de Rutshuru et Nyiragongo vit de l'agriculture et de l'élevage, ce qui explique qu'une crise entre ces couches pourrait être grave et va briser l'atmosphère de paix qui a toujours régné entre ces communautés. Zalem Métizaïdia Goma pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Alors que de plus en plus de personnes fuient vers les pays voisins pour échapper à la guerre en Ukraine, la Pologne fait face à un afflux de réfugiés à ses frontières. Leurs périples sont difficiles, ils laissent derrière eux leur maison et pour certains, des membres de leur famille. Marie Ngwawe et Karina Chaudry ont rencontré une de ces familles à Medica, un village à la frontière de l'Ukraine et de la Pologne. Le récit est de Dili Diko.
Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Pologne a accueilli plus de 2 millions de réfugiés. Dans la localité de Pjemce, à la frontière polonaise, environ 50 000 réfugiés arrivent chaque jour. Parmi eux, Lilia Achempong et ses deux filles. Elles sont entrées en Pologne par le village de Medica, l'un des principaux points de passage. Esther, la fille d'Achempong, travaillait comme responsable de ressources humaines à Kiev. Elle explique que le voyage n'a pas été facile.
Je suis ici avec ma famille. Voici ma mère, Lilia, et ma sœur Jasmine. C'est vraiment horrible, c'est vraiment difficile à comprendre. Je me sens fatiguée et épuisée.
Au camp de Medica, elles mangent une bouchée avant de monter dans le bus pour continuer leur voyage vers l'Allemagne. Écoutons Lilia Achempong, la mère d'Esther.
Nous faisons le voyage par nous-mêmes. Nous avons des amis en Allemagne. Mon mari nous a donné des numéros de téléphone. On va les appeler pour voir s'ils peuvent nous recevoir.
Lilia a rencontré son mari, Samson, un Ghanéen, lorsqu'il était étudiant en Ukraine.
Nous avons 4 enfants et il aimait l'Ukraine et il a décidé de rester, de ne pas partir. Il est pasteur dans une église, il prie avec les gens en Ukraine et il les soutient. Il les encourage en leur disant que nous allons gagner, l'Ukraine va gagner.
Esther montre une photo de son père et de ses frères d'une époque où la vie semblait beaucoup plus facile. Pour Lilia, laisser son mari et ses fils en Ukraine n'a pas été facile. Elle dit que même si ses fils ne ressemblent pas à des citoyens ukrainiens, ils sont nés là-bas, alors ils doivent se battre.
Je me sens seule, je me sens séparée. Les filles sont avec moi et mon mari est là-bas avec des fils. Il est avec eux parce qu'ils sont ukrainiens. Ils ne ressemblent pas à des citoyens ukrainiens, mais ils sont ukrainiens. Ils sont nés en Ukraine. Selon la loi et l'âge, ils doivent rester en Ukraine. Ils ne peuvent pas partir. Ils doivent faire la guerre pour notre pays.
Leurs vies tiennent maintenant dans 3 valises et des sacs à dos. Lilia Achempong et ses filles continuent leur voyage dans l'espoir de retrouver bientôt leur famille.
Nous ne savons pas ce qui va leur arriver. S'ils restent, nous croyons que Dieu les protégera. Nous pensons qu'avec un peu de chance, lorsque la guerre sera terminée, nous rentrerons chez nous parce que nous voulons vivre dans notre pays, pour soutenir notre pays. À ce stade, il y a beaucoup de destruction, beaucoup de douleur. Avec mes filles, nous avons décidé qu'il faudra revenir pour aider les gens, pour aider notre nation.
Alors que les réfugiés continuent d'affluer en Ukraine, les organisations humanitaires mettre les bouchées doubles pour en aider le plus grand nombre possible.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seydoudia et John Linden. Georges Léonard Sagno était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.